Radio Okapi. Le journal vous est présenté par Babel Pongo Massimango.
Bonjour, les réserves de devises de la RDC sont en hausse, elles passent aux 845 millions de dollars, à plus d'un milliard actuellement, situation que le gouvernement lie à la discipline budgétaire instaurée depuis l'année passée. Dédoublement des partis politiques, le CNC a examiné hier le cas de 5 partis du G7. 4 ont eu gain de cause, sauf le MSR de Pierre Lumbi, qui d'après le CNC n'a jamais obtenu d'arrêté d'enregistrement. Vous suivrez son président Joseph Olingankoy. L'invité de ce matin, Modeste Bahati Lukwebo, ministre d'État au plan et président de l'AFDC. Il s'exprime sur l'Alliance des forces démocratiques du changement et allié AFDCA, ce nouveau regroupement qui a été constitué le week-end dernier à Kinshasa. Ouvrons ce journal par cette bonne nouvelle dont se félicite le gouvernement. Les réserves en devises de la RDC dépassent à nouveau le cap d'un milliard de dollars américains. Cette amélioration de recettes publiques serait consécutive à la discipline budgétaire instaurée depuis juillet de l'année passée par les autorités du pays. Ces informations sont contenues dans une note d'information du ministère des Finances sur la situation économique et financière récente de la RDC, note publiée à la fin des travaux du comité mixte stratégique clôturé mardi à Kinshasa. Daniel Tambinzoni nous donne d'autres détails.
Cette note renseigne qu'au 19 mars, les réserves internationales de la RDC se situent à 1,16 milliard de dollars venant de 845 millions. Deux faits expliquent cette situation. D'abord, la gestion sur base caisse imposée au gouvernement depuis la seconde moitié de l'année 2017. Ensuite, l'embellie des prix des matières premières que la RDC exporte. Le marché des matières premières indique que le prix de la tonne métrique du cobalt a plus que doublé. Il est passé de 47 000 dollars la tonne à presque 85 000 dollars. La tonne du cuivre se négocie à 7 014 dollars contre 5 800. Les prix de l'once d'or et du baril de pétrole sont également en hausse. La gestion des finances publiques affiche des soldes excédentaires depuis le début de l'année 2018, excédents soutenus par la mobilisation accrue des recettes et la discipline budgétaire permanente dans les dépenses de l'État. La note fait savoir que l'accroissement des recettes a permis au gouvernement d'honorer la régularisation des dépenses contraignantes, notamment celles liées à l'organisation des élections, résorber les arriérés du fonctionnement des institutions publiques dont le gouvernement, le Parlement et autres services publics.
Cette performance économique obtenue par le gouvernement est saluée par Dédé Moulossa, expert économique, membre du comité mixte stratégique. Pour lui, avoir réalisé un tel excédent budgétaire en 3 mois est un exploit qui mérite d'être encouragé. Il salue également la décision du chef de l'État de mettre en place le comité mixte stratégique qui donne aujourd'hui des résultats escomptés. Dédé Moulossa, au micro de Daniel Tambinzoni.
Nous venons de loin avec la crise qui a frappé de plein fouet notre économie. Le gouvernement s'est ressaisi par l'instruction personnelle du chef de l'État qui a permis d'infléchir la ligne du gouvernement pour prendre des mesures exceptionnelles à la base du résultat dont les effets ont été annoncés par le porte-parole du gouvernement. Effectivement, ils ont réalisé pour la première fois d'ailleurs de vraies réserves budgétaires, c'est-à-dire des excédents réels de recettes sur les dépenses. C'est une première. 260 milliards de francs, à peu près 150 millions de dollars en 3 mois, il faudrait le faire. Il est important que le gouvernement soit encouragé à continuer dans cette stratégie qui a consisté à mettre en place non seulement les mesures, mais aussi un comité stratégique pour pouvoir suivre et contrôler la mise en œuvre de ces mesures économiques urgentes. Et l'implication du chef de l'État est mieux illustrée par la conduite de cette structure gouvernementale qui a été confiée à son directeur de cabinet, M. Némi. C'est important qu'il puisse continuer sur cette lancée-là.
Dédé Moulossa, membre du comité mixte stratégique. La Fédération d'entreprises du Congo fait réagir à la décision prise il y a quelques jours par cette entreprise minière de quitter ses rangs. Dans un communiqué rendu public hier, la FEC estime que les entreprises ayant remis en cause le nouveau code minier méconnaissent les intérêts du pays dans lequel elles opèrent et ne se préoccupent que de leurs seuls intérêts dans une conjoncture qui devrait pourtant être favorable à tous. D'autres précisions de ce communiqué de presse avec vous, Honoré Missinga.
C'est un document de 5 pages dans lequel la FEC rappelle d'abord qu'elle est l'objet des vives critiques de la part de ces entreprises depuis l'adoption par le Parlement du projet de loi portant révision du code minier. Ces entreprises l'accusent notamment de n'avoir pas joué suffisamment son rôle dans la promotion de leurs intérêts. Le rôle d'un syndicat patronal comme la FEC n'est pas d'être une chambre d'enregistrement et de promotion des désidératas de ses membres, quel qu'il soit, ce rôle est plutôt de promouvoir les intérêts des entreprises des différents secteurs d'activité économique, sociale et scientifique en harmonie avec le bien commun, lit-on dans le communiqué. La FEC n'a jamais été et n'a pas vocation à devenir la tête de pont des intérêts particuliers de tel ou tel quand ceci ne lui semble pas conforme au bien commun et à l'intérêt supérieur de la nation, renchérit le message. Au demeurant, la FEC rappelle que l'adoption et la promulgation du code minier est de la compétence exclusive de l'État propriétaire du sol et du sous-sol congolais, comme c'est le cas dans presque tous les pays du monde.
Le vice-premier ministre en charge du transport et voie de communication a présenté hier à la presse à Kinshasa le projet de construction du port en eau profonde de Banana sur la côte de l'océan Atlantique dans la province du Congo central. Ceci fait suite à l'approbation du projet du décret fixant les sites industriels du domaine franc de Moanda Banana par le conseil de ministres mardi. Mais qu'en est-il de la matérialisation de ce projet? Et l'on de réponse avec Jacques-Yves Monima.
La construction d'un port en eau profonde relève de la souveraineté de l'État. Et pour ce faire, l'État congolais a établi un partenariat public-privé avec DP World, une société des Émirats Arabes Unis. Ainsi, une convention de collaboration devait être signée entre les deux parties où l'État congolais aura 30% de participation non diluable au capital social. En ce qui concerne la gestion du port, l'État congolais dirigera les conseils d'administration et aura le poste de directeur général adjoint. La construction de ce port se fera en 4 phases et en déentrant 6 mois au minimum, la RDC disposera d'un port d'une longueur de 1600 mètres avec 5 quais et d'un tirant d'eau de 15,5 mètres de profondeur. Mais quel sera l'impact de ce projet? Outre l'ouverture à l'océan qui est donc un impact politique, ce projet aura également un impact sur le plan économique et social. José Makila Soumanda.
L'augmentation de flux de navires, essentiellement ceux de gros tonnage, la promotion du transport des marchandises par conteneur, la création d'emplois directs, environ 5 000, notamment par la construction de la zone industrielle et logistique autour du port, l'amélioration de la compétitivité de l'économie par la réduction des coûts de transport dans ces ports maritimes.
Notons que ce projet est une mise en concession de 30 ans avec possibilité de renouvellement de 20 ans après évaluation concluante.
Les dirigeants africains en prison à Kigali pour le sommet extraordinaire de l'Union africaine ont signé hier l'accord prévoyant l'instauration d'une zone de libre-échange continentale. Ce jour est historique. Après Addis Abeba en 1963, Abuja en 1991, Durban en 2002, Kigali marque une nouvelle étape dans notre marche vers plus d'intégration. C'est ce qu'a déclaré Moussa Faki, président de la commission de l'Union africaine lors de la cérémonie de clôture. Selon lui, plus de 40 pays ont accepté de signer l'accord sur la zone de libre-échange. À noter que pour la République démocratique du Congo, c'est Léonard Cheikh Kitundu, vice-premier ministre au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, qui a signé cet accord au nom du chef de l'État, Joseph Kabila. À Mbandaka, l'appel de la prime de risque des professionnels de santé divise les syndicalistes et leurs syndiqués. Les gens souhaitent qu'elle s'effectue encore manuellement auprès des agents payeurs. Mais la base, qui se réunit chaque matin devant l'inspection provinciale de la santé, a protesté hier. Les bénéficiaires exigent plutôt la bancarisation effective de cette prime pour couper court au réseau de détourneurs de ces fonds. Éclairage avec Paul-Richard Malinguela.
Alors que les professionnels de santé à l'Équateur se plaignent de 2 mois d'arriéré de leur prime, les syndicalistes expliquent ce retard par la lenteur de la bancarisation. Ils proposent encore la paye manuelle habituelle, le temps, selon eux, d'actualiser les listings afin de payer les agents omis avec le reliquat de ces fonds. L'un d'eux, qui a été hué par la base, explique.
L'Équateur, 18 zones de santé.
L'Équateur avec 18 zones de santé, la banque sera-t-elle capable d'aller partout à l'intérieur? La TMB s'est désengagée de Makanza, Lukolela et Bomongo. Lorsqu'on retournera le reliquat, qu'aucun omi ne vienne nous voir pour réclamer. Faux rétorque la foule de pro-santé en colère, trouvés ce mercredi devant l'inspection provinciale de la santé. Ils crient chaque matin leur calvaire et soutiennent plutôt à l'unanimité la bancarisation de leurs primes.
À tout moment, quand on paie de l'argent, il y a un groupe de gens qui rentrent et sont satisfaits et les autres sont mécontents que cet argent reste même 6 mois à la banque, jusqu'à ce que l'État lui-même va régulariser la situation pour que nous puissions avoir cet argent à la banque. Que cet argent ne sorte plus manuellement. Nous souffrons, tout le monde en pleure. Trop, c'est trop.
Aux dernières nouvelles, nous apprenons l'arrivée ici dans la ville des agents de la Sofibank chargés de la paie de cette prime des professionnels de santé. Mbandaka, Paul Chamalenge, la Radio Okapi.
Dédoublement des partis politiques. Le cas de 5 partis du G7 a été examiné hier par le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, CENSA. Il est à noter que désormais, le Parti démocrate chrétien PDC revient à José Ndundo, l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNADEF, à Christian Mwando Simba, l'Union nationale des démocrates fédéralistes UNADEF à Gabriel Kyungu Akumanza et l'Alliance pour le renouveau du Congo ARC à Olivier Kamitatou. Seul le MSR n'a pas eu gain de cause. Selon le président du CENSA, Joseph Olingankoy, ce parti alors dirigé par Pierre Lumbi n'avait jamais obtenu d'arrêté d'enregistrement. Olingankoy recommande à Pierre Lumbi de créer son propre parti politique et demande au ministère de l'Intérieur de lui en faciliter la tâche. Joseph Olingankoy explique au micro de Paul Matendo.
Le MSR n'avait pas de documents. De 2006 à 2015, il n'y avait aucun document. À 2016, ils ont obtenu un document par l'honorable Rubota. Donc, ce parti fonctionnait sans document réel d'MCR. On a fouillé là où on légalise les statuts du parti dans l'hôtel de ville. On a fouillé au ministère de l'Intérieur, on n'a pas pu voir. Et c'est comme ça que le premier document avec le nom MCR, c'est l'honorable là, Rubota, qui a eu son enregistrement en 2016. Mais le MCR existait depuis 2006. Vous allez comprendre les dysfonctionnements. Et c'est comme ça que nous avons trouvé solution, que on doit trouver des solutions pour tout le monde. Parce que tous les enfants du Congo veulent ensemble aller au rendez-vous avec leur peuple et trouver des solutions à leurs problèmes.
S'agissant des autres partis politiques dédoublés dont les camps ont été ultérieurement portés à la connaissance du CENSA, à savoir ACO, UDPS, M17, NBP, Joseph Olingankoy promet que leurs cas seront examinés dans les 48 heures. Au moins 15 000 jeunes chrétiens de la RDC et des pays voisins sont attendus aujourd'hui à Goma. C'est sur invitation du diocèse catholique de Goma pour la 10e édition des journées diocésaines de jeunes JDJ. La pacification, la cohabitation pacifique, mais aussi la mondialisation seront au centre de leur échange de 3 jours jusqu'au dimanche prochain, nous dit Jules Gala.
Les invités du diocèse de Goma, hommes et femmes, viendront du Nord Kivu ou du Sud Kivu, mais aussi des pays voisins comme le Rwanda, le Burundi et d'autres états de la CIRGL. Pour M. l'abbé Gabriel Hangi, aumônier diocésain de jeunes à Goma, les formations de cet atelier de 3 jours seront tout aussi bien holistiques qu'intégrales.
Par exemple, apprendre à gérer l'écologie, par exemple la masculinité positive, par exemple exiger ses droits par la non-violence active, savoir se mettre ensemble pour progresser dans le cadre du développement, ainsi de suite. Et donc, ce sont des domaines qui intéressent tout le monde. Et les jeunes qui vont venir, ils seront nos représentants dans les autres quartiers ou paroisses.
Avec, à la clé, des avantages certains pour tous, notamment dans le domaine de l'écuménisme ou du dialogue entre les religions. Une particularité de ces JDJ du diocèse de Goma, depuis 10 éditions qu'ils existent par la volonté du pape, les participants sont gratuitement hébergés dans des familles chrétiennes. Goma, Jules Ngala, Radio Okapi.
La situation du droit de l'homme en RDC a fait l'objet des discussions hier au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Parmi les personnalités qui ont pris la parole, la chef de la MONUSCO, Lila Zerougui, la ministre congolaise des droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa, ainsi que Bakken Ndiaye, membre de l'équipe d'experts internationaux sur la situation au Kasaï. Ce dernier a déclaré que ce serait en l'heure de croire que les violations de droits de l'homme ont cessé dans cette province. Joël Bofengo revient sur cette rencontre, particulièrement pour ce qui est du Kasaï.
L'équipe d'experts internationaux sur la situation au Kasaï a été mise en place en juin 2017 après une décision du Conseil des droits de l'homme. Ces experts sont chargés d'établir l'ensemble des faits et circonstances sur les violations des droits de l'homme commises au Kasaï depuis 2016. Bakren Ndiaye a déclaré devant le Conseil des droits de l'homme qu'il serait prématuré de tirer des conclusions sur les éléments de preuve que son équipe est toujours en train de collecter. Ces experts ont conduit plus de 300 entretiens avec des témoins et victimes. Ils ont également reçu de nombreuses informations provenant d'un large éventail de sources, a fait savoir M. Ndiaye. L'expert a indiqué que du côté des miliciens et des forces de l'ordre, un nombre très important d'actes de violence et des violations des droits de l'homme ont été relevés. L'équipe d'experts doit présenter en juin un rapport complet lors de la prochaine session du Conseil des droits de l'homme. Pour sa part, la ministre congolaise des droits humains a fait savoir que plusieurs personnes, civiles et militaires, soupçonnées d'implication dans les atrocités au Kasaï, ont été condamnées par la justice nationale et que les enquêtes se poursuivent. De Kananga, Joël Bofengo, Radio Okapi.
Le tribunal militaire de Goma siégeant en chambre foraine depuis une semaine à Saki, environ 20 km au sud de Goma, a prononcé hier de fortes peines contre 4 personnes, dont un policier. Cette audience organisée par l'ONG Soprop entre dans le cadre du projet de lutte contre les violences basées sur le genre. En reportage, Gabriel Waminia.
C'est sous une pluie battante et en présence d'une foule nombreuse que le président de la première chambre du tribunal militaire, le capitaine magistrat Faïzi Nyembo, appelle à la barre le prévenu Bizimungu Zangira. Ces policiers poursuivis pour l'infraction des viols pour enfants et le premier à être condamné. La sentence tombe, Bizimungu Zangira écope 20 ans de servitude pénale principale. Les deux prévenus suivants sont des civils. Ils sont poursuivis l'un pour les infractions des viols et participation à un mouvement insurrectionnel, l'autre pour détention illégale d'armes. Ils sont condamnés à leur tour par le tribunal militaire. Hairieima Ndayabaje écope 20 ans de prison ferme, tandis que Bisenga Samuel doit purger 15 ans de prison pour sa participation à un mouvement insurrectionnel. La quatrième personne condamnée à la peine de mort dans ce verdict est Munihire Maeshe, âgé d'une quarantaine d'années. Il était poursuivi pour l'infraction de meurtre. Notons que le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'affaire du cinquième prévenu, le soldat Itimana Sibomana, accusé de viol. Les juges ont estimé que l'action publique était éteinte car le soldat Itimana Sibomana est décédé en détention à la prison de Masisi au mois de novembre de l'année dernière. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Actualité, Afrique Monde.
Commençons par cette bonne nouvelle au Nigeria. Le gouvernement a annoncé hier la libération d'au moins 101 jeunes filles enlevées à Dapchi le 19 février dernier sur le 110 élèves kidnappés par des présumés membres de Boko Haram. Dans l'opinion, des questions se posent sur les conditions de cette libération, notamment sur un éventuel paiement de rançon. Le président péruvien Pedro Pablo Kuczynski a démissionné hier à la veille d'un possible vote du Parlement le destituant. Il lui est reproché des liens avec le groupe BTP Odebrecht, au cœur d'un vaste scandale de corruption.